Mergini, Métissage, Moa Crea Sloa. Les gens de panique.
Hut moment.
François Defossé.
Ouais, la première fois que j'ai entendu parler de panique, c'était encore quand la radio était rue Thomas Vincent. Et c'était l'émission Transport de viande. C'était une émission punk que j'écoutais régulièrement. Et c'était une période où j'étais un peu... C'était quelle année, ça, Transport de viande? Ça devait être...
Fin des années 80.
Ouais, 89, 90, un truc. 90, ouais, ça devait être ça, quoi. Moi, j'étais un peu dans cet état d'esprit à ce moment-là. Et puis, je sais plus comment je suis tombé, où j'ai entendu parler de panique. Puis, j'écoutais cette émission, et je suis passé une fois. Je suis devenu copain avec Antoine, Constant, Luc. Je suis passé une fois ou deux dans leur émission. Puis, je crois que les premières soirées sont arrivées. En fait, l'idée, c'était... J'allais à beaucoup de concerts à cette époque-là. Et je crois qu'Antoine m'avait proposé... C'était un concert à Liège. Je ne sais plus trop comment c'est que je me retrouvais à Liège. J'avais causé avec Antoine qui me disait, bon, on fait une soirée. Est-ce que ça t'intéresserait de venir mettre des disques à la soirée? C'était une soirée qui se passait uniquement au rez-de-chaussée, quoi.
Ici, dans les casernes.
Ici, dans les casernes, oui. Et en fait, cette soirée, c'est vraiment bien amusé. Et donc, c'était la première fois que je découvrais, je crois, le bâtiment. Et je crois que vers 5h du matin, j'ai mis des disques. Et puis, à un moment, je me suis retrouvé même à faire la caisse à l'entrée ou même faire... J'avais tout de suite... On m'a demandé de faire des choses que... Je voyais que tout le monde était débordé c'est un peu comme ça que j'ai un peu... J'ai commencé à m'impliquer, pas directement, mais un peu... J'ai découvert un autre visage de la radio, quoi. Ouais, ça devait être cette première soirée, c'est l'émission sur les nuits.
Alors, tu t'es approché de la radio aussi parce que dans le cadre de tes études, tu as fait un mémoire.
Un super mémoire, je n'ai jamais su ce que tu en as pensé, merci. Mais bon, je ne suis pas très fier du tout de cette histoire-là. En fait, je faisais une émission, j'ai commencé une émission qui s'appelait Hot Moment. Et puis, je crois que cette émission a duré un an, peut-être un peu plus. Et puis, j'ai commencé mon mémoire, je crois.
Des sauts de création. Chapitre 43. L'atelier et les radios associatives, ça coince.
Le festival de 1997 est largement ouvert aux radios associatives d'expression. Le tiers de sa programmation émane d'elle, soit sous forme de réalisation diffusée, soit sous forme de performance en direct.
Parmi celles-ci, un concert mis en place par les animateurs de l'émission Moa Créal Sloa de Panique.
Et là, on a fait un concert où j'ai invité quatre musiciens qui l'un ne connaît pas l'autre. C'était Christophe Bayot, il y était
Hirschfeld
de Noisemakers 5, il y a aussi Kim Château d'un label belgique qui est consacré de musique avant-gardiste de Lama Tapes, et il y a un peintre, qu'est-ce qu'il fait encore? Il joue la musique de Didgeridoo, oui, il a joué le Didgeridoo. Et là, l'idée, c'est qu'il y a les quatre qui connaissent l'un qui ne connaît pas l'autre, de donner la liberté. Et moi, j'étais le chef d'orchestre.
C'était dans la rotonde.
Dans la rotonde. Et c'est aussi une installation quadrophonique, avec aussi quatre vidéos.
Et ça donnait quoi?
C'était bien.
C'était bien. Il y a des gens qui sont...
Il y a pas mal de gens.
Ouais. Ouais. C'était pas mal, il y a pas mal de gens, de monde. Mais il y a aussi des gens qui sont un peu...
agressés.
Pas agressés, mais qui trouvaient ça un peu trop dur, parce qu'il y a des films qui sont un peu
durs. Films, ouais.
Il y a quelques films qui sont très chouettes, mais qui sont un peu retirés de contexte, et ça choquait quelques personnes. Mais les autres qui ont trouvé ça tellement bien, donc c'est pour chacun une idée assez personnelle. Donc... Mais on a eu pas mal de bonnes réactions pour cette performance-là, mais c'était pas facile finalement. si je me souviens bien, c'était assez compliqué.
Ouais. Techniquement aussi.
Techniquement, c'est très très difficile parce qu'on utilisait donc le son des quatre fidios, les quatre musiciens, plus encore 3-4 CD, mini-disques. Donc il y a beaucoup de sons qui passent et de gérer ça, c'était pas évident.
Sans tourner, des fois certains musiciens avaient plus de place que d'autres. Donc...
Ah. Ouais, on travaillait aussi avec les lumières pour indiquer qui peut jouer, des choses comme ça.
Tout à fait.
Ouais. Et aussi de tourner, donc dès que quelqu'un joue à gauche, 10 minutes après il est à droite. Donc il reste sur sa place, mais on a joué avec les baffres. Donc, et ça donnait aussi une dimension en plus pour le concert.
Extrait du grand débat du festival, Philippe Delchambre, Radio Campus.
Mais je pense que c'est une dynamique d'ensemble qu'il faut un peu voir, M. Calice. Ce n'est pas uniquement de la création radiophonique. Je suis très sensible à la création radiophonique. Mais la création radiophonique, en ce qui me concerne et ce que je peux observer à Radio Campus à Bruxelles, c'est un décloisonnement entre les tâches de technicien, de réalisateur, de journaliste même. On décloisonne totalement. Il y a une perte totale de repères dans les fonctions radiophoniques. Et je souhaiterais évidemment que le débat s'oriente vers ce décloisonnement, qu'on ne reste pas uniquement à une création radiophonique qui, comme Chantal me le confiait hier, ne serait qu'une création radiophonique de théâtre radiophonique, qui est parfois un peu embêtante.
Qui serait dégagée du reste, c'est ça que...
Mais moi je pense qu'il y a une discussion à faire.
Ok, je crois qu'on a compris la position.
Non, mais je voudrais terminer simplement en disant que je sais qu'il existe pour l'instant des négociations entre le cabinet de la communauté française et des responsables de votre ASBL. Je pense que le monde des radios associatives vivrait très cruellement, comme une espèce de poignard dans le dos, le fait qu'un grand nombre de recettes seraient allouées spécifiquement à votre très honorable association. Je pense que ce dont je veux attirer l'attention, simplement ici, c'est que nous sommes plusieurs acteurs en communauté française, des commerciaux, du public, du privé, des associatifs, et qu'il est temps de refaire une table ronde et de savoir où vont aller les ressources et de maintenir une production radiophonique au sens large en communauté française, y compris la création. La création n'est pas uniquement une création qui se fait en studio, mais c'est aussi une création in situ. Lorsqu'un journaliste met un journal en onde, il fait de la création radiophonique au sens où John Cage disait que tout est musique.
Richard Kalisch, secrétaire général de l'atelier de création sonore et radiophonique.
Je voudrais dire un mot, juste avant que tu n'interviennes, sur la remarque que tu as faite tout à l'heure, Philippe Delchambre, sur l'éventuel coup de poignard dans le dos qui serait ressenti parce que l'atelier de création aurait des moyens au détriment d'autres structures. Oui, c'est une hypothèse, je sais bien, mais enfin, la phrase est lancée, et donc le débat doit se poursuivre. Je pense ce que nous avons voulu faire, quand même, il faut bien comprendre la chose, c'est que le constat part quand même du fait que depuis quelques années, la création est sacrifiée, qu'elle n'existe pratiquement plus, et que les auteurs n'ont plus leur place dans l'art radiophonique. Ça, c'est une des grosses questions. Et donc, la constitution de cet atelier de création qui a mis l'accent sur la création, c'est parce que, justement, il y avait toute une part de la radio qui, tout à coup, tombait dans la trappe et que on la considérait désormais comme essentiellement music and news, essentiellement, finalement, et une radio d'animateurs et de journalistes. Donc, c'était ça qui était important. Alors, si nous commençons à lever des suspicions de ce genre et ne pas pouvoir trouver les alliances entre auteurs, créateurs, journalistes et animateurs, alors là, la question va devenir effectivement difficile.
C'est le début d'une interminable polémique entre quelques leaders du mouvement des radios et l'atelier.
Dans cette période-là, le fonds d'aide est loin de dépenser son enveloppe annuelle et accumule des réserves parce que trop peu de projets lui sont soumis par les radios. Je ne vois pas alors pourquoi l'atelier ne serait pas demandeur. Plus profondément, je pense alors qu'il y a une base objective d'intérêt commun entre une création radiophonique marginalisée, voire supprimée par le service public, et des radios d'expression et de création marginalisées sur la bande FM. J'en conclus, sans doute un peu naïvement, qu'une rencontre entre les créateurs professionnels et les artisans des radios associatives est possible et souhaitable pour ces dernières qui ne peuvent qu'y gagner en qualité et en reconnaissance.
L'atelier choisit en 1997 de ne pas travailler qu'avec la RTBF et propose une formule de coproduction de projets aux radios associatives, le seul apport de celle-ci étant, à l'instar de la RTBF, de prêter leur studio de montage. La proposition est rejetée.
En fait, les radios sont dans une telle situation de misère qu'elles n'ont même plus les ressources humaines et techniques pour être partenaires de l'atelier à ce niveau-là.
Le 14 octobre 1998, l'atelier adresse une lettre à toutes les radios associatives annonçant le deuxième festival qui aura lieu en janvier 1999 sur le thème de la fiction.
Tout comme lors de la première édition en 1997, nous avons le désir que les artisans des radios d'expression et de création se sentent concernés par le festival et trouvent la place qui leur revient. Cependant, nous ne voulons pas décider de vos modes de participation éventuels sans en avoir au préalable discuté avec vous. C'est pourquoi nous vous proposons de nous réunir le lundi 9 novembre à 18h à notre secrétariat rue du Prince Royal 87 1050 Bruxelles afin de voir ensemble si, comment et dans quelles conditions vous désirez participer activement à la réalisation du festival de janvier 1999. Voulez-vous avoir l'obligeance de communiquer cette invitation aux animatrices et animateurs de votre radio susceptibles d'être intéressés ?
Personne ne répond ni ne vient à cette réunion. Un seul artisan de radio associative participera anonymement avec une installation sonore dans les toilettes du Botanique.
Lors de la conférence de presse présentant le deuxième festival, 8 janvier 1999, Marcel Aufler évoque la situation financière quasi exsangue des radios ainsi que l'évolution de la clientèle du fonds d'aide. Il revendique l'ouverture d'un deuxième fonds destiné à soutenir les radios où l'expression et la création sont pratiquées de manière alternative par rapport aux médias dominants. La perspective qu'on croit proche de voir les réseaux commerciaux alimenter le fonds faisant passer son enveloppe de 150 000 à 370 000 euros rend légitime cette revendication.
Lors du discours d'ouverture du festival prononcé par Henri Ingberg, quelques responsables historiques des radios et quelques suiveurs quittent ostensiblement la salle. Ils distribuent le tract suivant.
Les subsides au festival sont équivalents à 2 ans de budget d'une radio associative. Étonnement et amertume. Le fonds d'aide a toujours eu la mission implicite de permettre aux acteurs bénévoles des radios associatives de pouvoir exercer leur activité dans des conditions décentes, en bénéficiant de moyens que leurs radios ne sont pas en mesure de leur procurer. Consommables, location de studios professionnels, rémunération de comédiens. Progressivement, et singulièrement depuis la création de l'atelier, cet objectif premier a été dévoyé de son sens, au profit de créateurs n'ayant aucun lien avec les radios associatives. L'octroi à l'atelier de moyens impressionnants pour l'organisation de son festival témoigne d'une différence de traitement envers les bénéficiaires du fonds d'aide. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il semble donc que les choix politiques de notre communauté soient clairement établis en faveur d'une création radiophonique de haut niveau. La priorité est de montrer à l'extérieur la vitalité de la création en organisant des événements de prestige, alors qu'au sein des radios associatives, la création se pratique quotidiennement et pour les auditeurs.
Radio Panique a été mise à l'écart de cette initiative, comme si elle avait trahi, comme s'il fallait se méfier d'elle.
On a essayé de stigmatiser un choix qui nous semblait être fait par la communauté française entre un certain type de création radio et la création radio telle qu'elle se pratique, je veux dire, au quotidien, dans les radios associatives. Parce que création radio, ça peut être des choses très pointues, ça peut être aussi faire le travail de la RTBF à sa place, production de dramatique, etc. Mais pour nous, c'est beaucoup plus large, et c'est vrai que c'est tout l'aspect d'accès au micro, de prendre la parole, de travailler sur la parole, de trouver des nouveaux moyens d'expression, et de aussi d'attirer d'autres publics. Et ça, c'est pas uniquement faire une production de temps en temps, quoi. Faire un reportage, un documentaire ou une dramatique. Et donc, on a l'impression qu'au niveau de la communauté française, un choix est fait plutôt vers un aspect, je vais pas dire élitiste, le mot est peut-être trop fort, mais quand même assez cultureux, plutôt que plus large. Et moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, quoi.
L'événement fiction du festival Taxi Libre de Richard Kalisch, réalisation Didier Mellon, est retransmis en direct uniquement sur Radio Panique. Jusqu'à ce jour, aucune autre radio ne l'a diffusé, même en différé.
Lors de ce festival, je présente ma réalisation intitulée « Les histoires sont d'amour ou de haine ». Une sorte de florilège des productions subsidiées par le Fonds d'aide depuis 1995. Cette réalisation met en onde mes options. J'y mixe autour de quelques thèmes récurrents des extraits de réalisations issus tant du milieu dit professionnel que du milieu des radios associatives. Je mixe également documentaires et œuvres de fiction.
Les histoires sont d'amour ou de haine. Des parfums de fleurs, des odeurs de crevettes, de fritures, de vanille, des craquements de bois mort. Un ciel éternellement bas, une pluie entêtée, des cris de mouettes, des usines désaffectées, des verres de bière qui s'entrechoquent, des insultes dans le vacarme des bars, des aboiements de chiens dans le silence d'une rue vide en pleine nuit. Autant d'images, d'émotions, de sensations. Mais jamais de territoire bien défini, de frontières bien délimitées.
Un soir, il faisait un temps épouvantable. Il éclairait et il tonnait, la pluie tombait à torrents. C'était effrayant. À ce moment, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi alla lui-même ouvrir. Devant lui se tenait une princesse. Dieu, comme la pluie et le mauvais temps l'avaient arrangée. L'eau ruisselait le long de ses cheveux et de ses vêtements et entrant par ses semelles, sortait par ses talons. Et pourtant, elle disait qu'elle était une vraie princesse.
Laisse-moi te regarder dans les yeux.
Elle plante son regard au fond des yeux de Barnabé Lacoste. Et à cet instant précis... elle se transforme en une ravissante jeune fille avec de magnifiques cheveux verts.
Agitée, inquiète, elle se lava, courut à une glace, vit qu'elle était grande. Et elle se trouva charmante. Ses beaux cheveux blonds tombaient jusqu'à ses pieds. Son teint blanc et rose, ses jolis yeux bleus, son petit nez arrondi, sa petite bouche vermeille, ses joues rosées, sa taille fine et gracieuse faisaient d'elle la plus jolie personne qu'elle eût jamais vue.
Seule.
Seule.
Étudiant ton visage dans un miroir glacé.
Étudiant ton visage dans un miroir glacé.
Souriant ou peut-être grimaçant.
Souriant ou peut-être grimaçant.
Un microphone proche amplifie le son de ta respiration.
Un microphone proche amplifie le son de ta respiration.
Tu te baisses progressivement vers ton reflet, jusqu'à ce que le miroir s'embue.
Tu te baisses progressivement vers ton reflet, jusqu'à ce que le miroir s'embue.
Tu te retires jusqu'à ce que l'image devienne nette.
Tu te retires jusqu'à ce que l'image devienne nette.
On m'a juste laissé mes vieilles photos. Regarde, maman, comme t'étais jolie quand t'étais jeune. Ça suffit pas d'être vieux, on vous punit d'être vieux. Un jour viendra où ils se diront, on ne veut plus la voir. On veut garder une belle image d'elle.
Et que personne ne l'oublie.
Ce programme a été réalisé avec l'aide de la communauté française.
La communauté française aide la radio de création.